Mauvaise nouvelle, chères auditrices de France Inter. Le week-end dernier, pendant les journées du refus de la misère, on s'est occupé aussi de nous, les femmes, à Deauville, baptisée pour l'occasion capitale des femmes du monde. Ce fut sous un soleil éclatant le premier Women's Forum. Grâce à ce prestigieux rassemblement, près de 500 personnalités, aussi représentatives de notre condition que Madame Laurence Parisot, présidente du MEDEF, Thierry Blair, épouse de qui vous savez, ou Françoise de Panafieux, ont déambulé et papoté pendant 3 jours, en tenue très élégante, dans les luxueux salons des palaces d'Auvillé. D'après les organisatrices, de grandes idées ont émergé. Car ces dames n'allaient quand même pas s'abaisser à discuter ici du salaire de leurs employés de maison ou des ouvrières de Moulinex, chômeuses quelques kilomètres plus loin. Non, je les cite. Ce forum ne laisse pas de place aux féministes pures et dures, mais aux femmes qui veulent faire valoir leurs compétences en partenariat avec les hommes et les entreprises. Les conclusions de leurs travaux seront relayées par les politiques, à commencer par l'ex-jupette Nicole Ameline, omniprésente dans ce forum. Madame Ameline, en dehors d'un goût très prononcé pour le maquillage et les bijoux, n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour la cause féminine, avant de se retrouver secrétaire d'État à la parité dans le gouvernement Marafarin. Elle est aujourd'hui, tenez-vous bien, ambassadrice internationale à la parité. Donc, comme l'a bien vu le canard enchaîné, ambassadrice au chou farci. Mais ce statut bidon lui donne néanmoins de l'influence et lui permet d'organiser ce genre de grand raout aussi coûteux qu'inefficace. Quant à nous, pour ces 500 décideuses, on n'existe pas. Le message est clair, les filles. Continuez à galérer et à vous serrer la ceinture.
Bonjour, c'est Jean-Christophe de Grenoble. Merci Daniel de tes émissions pour le 17 octobre 61. Ça fait maintenant 2 ou 3 ans que j'écoute tes émissions régulièrement et que je connais cet événement dont je n'avais que très vaguement entendu parler auparavant. Je me posais la question, que faisaient les Français musulmans, les Algériens à Paris, dans les bidonvilles de Nanterre et d'ailleurs autour de Paris? Ils étaient ouvriers, ils allaient travailler, ils travaillaient dans des usines. Est-ce qu'ils travaillaient dans les mêmes conditions que les ouvriers français? Probablement pas. Est-ce qu'ils travaillaient avec des ouvriers français? Est-ce qu'il y a des ouvriers français qui se souviennent ne pas avoir vu leurs collègues de travail le 18, le 19 octobre et les jours suivants? Est-ce qu'ils ont posé des questions? Est-ce qu'ils pourraient témoigner? Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Et les entreprises chez qui travaillaient ces gens-là, ils n'ont pas vu venir leurs travailleurs, mais apparemment ça leur a pas posé de problème. Est-ce que c'était quantité négligeable? Ce serait intéressant de voir cet aspect des choses-là. Merci.
Je voulais porter un témoignage, je vais essayer de très court. En 1961, j'habitais à la limite de Sannois et d'Argenteuil, d'un quartier où j'avais beaucoup de camarades maghrébins. Ce soir du 17 octobre, j'étais surpris de voir que les rues étaient vides. Et le lendemain, j'ai appris ce qui s'était passé à Paris. Et puis, c'était avec beaucoup d'émotion. J'ai écouté l'émission hier soir, parce que j'ai pensé à ces camarades que je n'ai jamais revus. C'était beaucoup des travailleurs de la région d'Aumale, qui étaient engagés dans la bataille pour l'indépendance de leur pays. Je pense notamment à Mekid et à Moussa, que je n'ai jamais revus. Par là, quelques années plus tard, j'ai appris qu'ils avaient été expédiés en Algérie, qu'ils n'ont pas été tués. Mais combien de centaines de camarades algériens qui sont morts ce jour-là? Heureusement qu'il y a eu des gens courageux à l'époque qui ont sauvé l'honneur de la France, qui ont aidé les Algériens. Je pense notamment à ces militants de la CGT qui, à Argenteuil, ont repêché des camarades qui étaient dans l'eau, qui les ont camouflés pendant plusieurs jours à la Bourse du Travail. Merci encore aux militants, enfin aux journalistes qui font l'émission avec Daniel Mermet, et qui sauvent l'honneur du journaliste aujourd'hui. Merci encore.
Oui, j'ai un témoignage sur l'événement dont vous parlez de 61. Alors, un témoignage, puisque j'étais gendarme mobile, j'ai vu beaucoup de choses. Merci.
Oui, bonjour, l'émission là-bas, si j'y suis, j'écoute toujours avec grand intérêt cette émission. Et concernant les exactions de la police et de tous les sbires de la police, je suis honteux d'être français, bien sûr. quoique ancien combattant moi-même. Mais où ont-ils décroché leur fourragère rouge, les flics, ces voyous-là? Et la fourragère rouge, c'est la Légion d'honneur. Comment se fait-il qu'ils ont eu cet insigne honneur? Où l'ont-ils décroché, ceux-là? Ils ont oublié le Veldiv? Ils ont oublié tous ces massacres qu'ils ont faits? J'en ai honte d'être français. Ici, Gérard.
J'ai pleuré en écoutant vos émissions sur les massacres du 17 octobre 1961. Je me sens concernée, je suis touchée, car je me souviens, un jour mon père m'a raconté qu'en 1962, la police l'avait arrêté dans une rue de Toulouse. Elle lui a demandé ses papiers. Après avoir regardé sa carte de séjour, le policier s'est exclamé avec surprise. « Mais vous êtes espagnol ?» Eh oui, mon père la chape est belle ce jour-là. Mon père andalou était brun, frisé, le teint très mat. Bref, il ressemblait à un maghrébin et on l'avait pris pour un Algérien. Je n'ose penser s'il avait été arrêté, emprisonné. Imaginez le reste. Je rêve d'un procès, celui de l'État français et de tous ses tortionnaires. Mais les rêves peuvent devenir réalité. Au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Muriel Afouzillon dans l'Hérault qui te parle ce soir. Alors mercredi, un peu avant 17h, dans le village voisin de Magalas, sous des trompes d'eau, j'ai trouvé un jeune arabe au bord de la route avec l'oreille gauche en sang. Il me faisait des grands signes, je me suis arrêtée. Il m'a demandé si par hasard j'allais pas sur Béziers ou si je ne connaissais pas quelqu'un qui rentrerait du travail sur Béziers. Il m'a dit qu'il avait l'argent pour payer le trajet, mais que là, s'il était là comme ça sous la flotte, c'est parce que le chauffeur du car qui devait le ramener refusait de le laisser monter en prétextant qu'il n'y avait pas de place, alors que le car, il était totalement vide. Alors, bien que ma direction ne soit pas celle de Béziers, j'ai décidé de ne pas le laisser plus longtemps sous ce déluge, et je l'ai emmené. Donc la conversation s'engage dans la voiture, il a 19 ans, il est français d'origine marocaine, il débute une formation de blaquiste chez un patron de Magalas. Apparemment, ça se passe pas trop bien, mais il n'en dit pas plus. Par contre, il me raconte le geste violent que son patron vient d'avoir. Il va envoyer une porte en pleine figure. Alors voilà, Daniel, là je craque parce que trop, c'est trop. De quel droit un patron a le droit, comme ça, d'envoyer une porte dans le visage de son apprenti, encore bien même, il aurait des reproches à lui faire? De quel droit un chauffeur de car refuse l'accès à son véhicule à un jeune qui rentre du travail? Parce que c'est un jeune arabe? Mais on vit où, là, les gens? On vit où pour se comporter comme ça? Ça me fait mal, Daniel, j'ai honte. Et j'ai envie de dire honte à toi, patron plaquiste de Magalas. Honte à toi, chauffeur de car. Alors voilà, sous une pluie battante, ça fait 9 jours que ça dure, j'ai ramené ce jeune à Béziers chez lui. Il habite à la Devèze. Je l'ai déposé au pied de son immeuble. Et en descendant de voiture, il a voulu me donner les 10 euros qu'il avait sur lui pour l'essence. Parce qu'il m'a dit que l'essence, c'était cher en ce moment. Et puis en fait, il était content d'arriver chez lui à temps parce que ça lui a permis de rompre en famille le jeûne du Ramadan. Voilà Daniel, quant à moi, ben, je n'oublierai pas ses yeux à ce gamin et les bouts de sa vie qu'il m'a raconté durant les 20 kilomètres du trajet et l'humiliation dont il est victime jour après jour. C'est ce qu'il m'a dit.
Il y a comme un lien quand même entre ce témoignage qui est particulièrement gratiné, je dirais, hein, qu'on vient d'entendre là, et puis les deux émissions qu'on a consacrées au 17 octobre 1961, et puis la semaine précédente, les émissions consacrées à la fracture coloniale. 17 octobre 61, fracture coloniale, et ce témoignage, il y a du boulot. On a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Aujourd'hui, on va retrouver Charlie Boer. Vous vous souvenez de Charlie Boer, l'auteur de Fracture d'une vie. Vous allez voir, là aussi, il y a un lien. Parce que la vie entière de Charlie Boer, qui, on l'avait dit en juin, confond la vie et la lutte. Enfin, sa vie et sa vie de lutte, c'est la même chose. Est tributaire de ces événements aussi d'Algérie, de guerre d'Algérie, des conséquences de cette guerre en France et des engagements, de l'engagement comme cette auditrice d'ailleurs. Hein. Elle fait de la résistance, cette auditrice. Ça a un nom, ça s'appelle une auditrice douée de conscience et qui fait de la résistance. Vous avez été très nombreux hier à réagir sur le message suite au message de Marina, cette jeune femme qui a raconté la dèche dans laquelle elle est, la galère dans laquelle elle est, comment l'humiliation que c'est pour elle de payer avec des pièces de monnaie. Et ça vous a beaucoup frappé, donc On fait suivre vos coordonnées, ceux qui nous ont adressé des coordonnées, soit par téléphone, soit par mail, on lui fait parvenir, et elle vous répondra si elle le souhaite, bien évidemment. Et puis si vous voulez lui écrire, mettez à l'intérieur d'une enveloppe que vous lui destinez, une enveloppe en indiquant Marina sur l'enveloppe, et on lui fera suivre. Notre adresse, je vous la rappelle, c'est là-bas si j'y suis, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 016 Paris. Autre chose encore, les repères de là-bas si j'y suis, il y en a un nouveau qui est né aujourd'hui, c'est à la Seine-sur-Mer, le bistrot s'appelle Les Chantiers de la Lune, et la première réunion c'est le 2 novembre à 19h, 2 novembre à 19h, d'après Katia Ragba, qui est à l'initiative de ce repère. C'est le jour de la sirène, c'est le jour où on entend la sirène à la Seine-sur-Mer. Voilà. Donc la Seine-sur-Mer, les chantiers de la Lune, le bistrot, et 2 novembre à 19h. Demain, on se retrouvera à Bressuire. Les auditeurs les amis de la Basse-Uc se retrouveront à Bressuire au café Le Petit Clazet à 18h30. Et puis, sur l'île de Groix, au bateau Yves, ce sera aussi demain, jeudi, à 20h30. Voilà. Autre chose encore pour finir, avant de s'embarquer avec Charlie Bauer et Pascal Pascariello. Vous avez été nombreux à réagir à un message d'un auditeur hier au sujet de ratonnades qui auraient eu lieu à l'époque à Metz. Et de nombreux messages, une dizaine de messages ne sont arrivés d'un peu partout en disant oui, j'en ai entendu parler, oui, et il s'est passé quelque chose, oui, il faudrait creuser ce dossier. Rien de très très précis, hein, je m'empresse de le dire. Il n'y a pas un historien qui nous a appelé en disant voilà, oui, bien sûr, on a tous travaillé là-dessus. Non, mais visiblement, il s'est passé quelque chose à Metz. Je rappelle le numéro du répondeur de la base. J'y suis, 01-56-40-37-37.
Bonjour, c'est Jean-Claude de Lorraine. J'habite à 25 km de Metz. J'ai été heureusement surpris aujourd'hui par le message d'un auditeur qui évoquait le massacre de Maghrébins à Metz pendant la guerre d'Algérie. À l'époque, j'étais très jeune. Je suis né en 1947, mais fils de résistants des Cévennes. Je me suis demandé pourquoi on envoyait mon grand frère en Algérie faire ce que les Allemands avaient fait dans nos montagnes. C'est ce qui a déterminé les engagements moraux et civiques de toute ma vie. À l'époque, j'ai entendu parler de cette ratonnade, comme on disait. Elle aurait été l'œuvre de parachutistes. Je ne sais pas si c'était des engagés ou des appelés, que j'imaginais chauffés par leur encadrement et par la bière. On a parlé d'un commerçant ambulant maghrébin jeté avec son stand dans la Moselle. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, le silence, grâce à la censure, était total sur des événements pareils. Je n'avais jamais plus entendu parler depuis de cet événement, mais peut-être que le fait que le commandement de la région militaire de Lorraine ait été confié à un certain général Massu pendant les années suivantes n'a pas aidé les recherches à ce sujet. Il faudrait certainement mener une enquête, et je vous invite à le faire à ce sujet pour savoir si ces faits sont exacts et si c'est nécessaire laver l'honneur de notre Lorraine qui a su par ailleurs dans ses vallées sidérurgiques et minières réaliser une véritable intégration de cultures multiples. Si on veut me rappeler, je suis prêt à aider.
Bonjour, Laurent Fournier de Besançon. Salut Daniel, salut tous les auditeurs. Mon père, aujourd'hui décédé, m'a parlé de cette ratonnade à Metz. D'après lui, le premier régiment étranger de parachutistes avait été rapatrié d'Algérie. Et des activistes algériens auraient mitraillé et lancé des grenades dans une discothèque et il y aurait eu des blessés et des morts parmi les légionnaires qui seraient rentrés à la caserne. Et en représailles, toute la caserne, y compris les gradés, serait redescendue en ville et aurait matraqué tous les maghrébins qui trouvaient sur leur passage. Eh bien voilà, c'était ce que je me souviens. Je remercie tous les auditeurs, je remercie France Inter de pouvoir s'exprimer. Au revoir.
Allô, bonjour à tous. Là, je suis devant la gendarmerie de Nyon, c'est Christine de Nyon. Je suis France Inter. Et ce matin, on a des camarades qui ont été mis en garde à vue. Nous sommes devant la gendarmerie pour les soutenir. La même chose à Toulouse. Donc on voit aujourd'hui toujours pas de possibilité d'un débat démocratique en France en ce qui concerne le problème des OGM. Les arrestations des faucheurs frères apparemment se poursuivent. Donc voilà, bah, écoutez, soutenez-nous comme vous pouvez. Et voici un message de nous. Allez, au revoir, c'est Christine.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben, si j'y suis avec Pascal Pascariello et Charlie Bauer, Fracture d'une vie.
Flight number 2, arriving from New York.
Plein de gens. Putain, avant, tu vois, tu pouvais rentrer, là, maintenant, c'est thème, hein. Et on est devant les baumettes, voilà. Il fait froid, on est à l'ombre, les baumettes sont au soleil, quoi. Bon. Alors, comme vous le voyez, c'est... Rien ne ressemble plus à une prison qu'une autre prison, et là, cette prison-là, donc, ben, elle n'a pas changé depuis, ben, depuis toujours, je crois. Ils ont rajouté des murs. En face à la porte de la prison, il y avait un bar qui s'appelait Bonjour l'humour, qui s'appelait Ici mieux qu'en face. Là, maintenant, il y a une espèce de bâtiment pour les surveillants. Comme ça, ils sont à demeure, c'est bien, ils ont qu'à traverser la rue pour aller bosser. C'est le prolétariat pénitentiaire, quoi. Hein?
Le premier geste qu'on fait quand vous êtes sorti,
c'est regarder loin. Regarder loin. Pendant des années, le regard est bloqué à quelques mètres. Et là, on peut se permettre de regarder loin, d'avoir des sons différents. Comme là, vous voyez, là devant les baumettes. Bon, on voit tournoyer les mouettes. Il y a les types là qui sont derrière les cellules, ils ne perçoivent pas les sons comme nous les percevons. Même le son de sa voix, il est différent. Il est renvoyé différemment par le fait du béton, des bétons armés en l'occurrence. Et donc il y a une différence quand même, même au niveau du son, moi je l'ai perçu ça très violemment. Le son, il est renvoyé dans la cellule comme une balle de ping-pong, vous voyez. Même lorsqu'il n'y a pas de son, même les pensées résonnent. Et bien des fois, cet enfermement a un effet boomerang. Hein. On croit s'en échapper, il vous revient dans la gueule comme un boomerang. Il faut avoir assez de force pour savoir bien lancer le boomerang et à faire qu'il touche sa cible et qu'il ne vous revienne pas dans la gueule. Quoi. Ça, c'est un effet de liberté, c'est un effet d'évasion, c'est un effet réussi dans la belle des belles.
C'est vrai, on aurait pu intituler cette heure « La belle des belles ». Ça a été l'idée fixe de Charlie Bauer toute sa vie durant, puis ça continue d'être son horizon. « La belle des belles ». C'est beau, hein ?« La belle des belles », « Le rebelle de la belle des belles ». Il y a évidemment tout un romanesque, tout un romantisme et toute une séduction pour envers le Zorro, envers le Robin des Bois, envers le seul contre tous, l'homme qu'on n'attrape jamais, l'homme qui s'évade. C'est vrai que ça nous fascine et que ça nous plaît. Ça nous plaît. De quoi est faite cette fascination? Est-ce que c'est pas la fascination qui peut être quelque part dans l'esprit de l'eunuque qui regarde un étalon et qui tout d'un coup, à la vue de l'étalon, se réveille sans savoir ce à quoi ça correspond. Il est possible que le succès du bouquin de Bauer, publié, je le disais, il y a une quinzaine d'années, et republié ces temps-ci, tout récemment, Fracture d'une vie, soit de cette nature-là. De nature, là, mais pas de cette culture-là. C'est autre chose dont Charlie Bauer parle dans ce bouquin, qui est entièrement fait de sa vie. C'est sa vie, la matière première de ce livre. Une vie entièrement de lutte. Il doit confondre ces deux mots, ce garçon. Lutte et vie, pour lui, c'est exactement la même chose. Et il va nous raconter comment et pourquoi. Et Bauer, c'est intéressant de l'écouter aujourd'hui. Si on demandait aujourd'hui à un jeune garçon ou à une jeune fille, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, il dirait victime. Quand Charlie Bauer était petit, on disait je voudrais être résistant. C'est peut-être à ça qu'on verra le basculement du temps, comment les choses ont évolué. Et il se peut bien que notre intention, notre arrière-pensée, en rencontrant Boer et en vous le faisant découvrir ou redécouvrir, c'est celle-ci, celle qu'effectivement, c'est pas mal de considérer que les deux mots se superposent exactement, la vie et la lutte. C'est jusqu'à 18h sur Inter avec Pascal Le Pascariello et Charlie Boer, Fracture d'une vie.
Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets était là bien sage. 200 briques, somme toute ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur était ma planque chez Suzy. Et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, une radio s'est mise à déverser, un air de piano a tout cassé. Je connaissais ce truc, c'était le blue rondo à la tourtelle, Boubette jouait comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond, je pris le récepteur, allô c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, y'a un garde flic au coin de la rue, je restais sans voix, j'étais foutu, il faut que tu files, me dit-elle, descends pas sur le toit par les doigts. Bon Dieu, encore les flics, vite le fric, et puis l'escalier de service, 4 à 4, 1, Basista s'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue du Colise, c'était la cohue. J'en peux plus, j'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Ah le temps, la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. S'enfonçant toute pente, une bouche descendit jusqu'en bas. Et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue je ne le savais plus, mais tant pis je suis sorti. Et tout de suite je les ai vus, quatre flics au bout de la rue. Pas de panique, j'ai reconnu le bar du living, j'y suis entré. La boîte était pleine comme un œuf, deux ou trois jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retournais, Suzy était là toute pâle, elle me souriait, de nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle m'a dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici, nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas, avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué, me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas. Je te suis, on y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, 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 toute la vie.
Je suis sorti de prison en 1988. Ça fait donc, ça va faire 17 ans. Je suis sorti le 18 juin, non pas à l'appel du 18 juin, aussi bien à l'appel gaulien que l'appel du pétard, quoi, hein, dans les années 70, le 18 juin, juin, jointe. Là, moi non, c'était le 18 juin, le jour de ma libération. Tiens, on va peut-être grimper cette route, là.
Et ça faisait combien de temps que vous étiez en prison ?
Alors ça s'est effectué en deux fois, à savoir une première fois arrêtée en 1962. Vous voyez, je porte bien mon âge. Hein. 62, j'avais 20 ans. Arrêté, condamné à 20 ans de réclusion. Sorti en 77. Réincarcéré.
dans le cadre de l'affaire Mesrine en 1979. J'ai été arrêté 2 heures après l'exécution de mon ami. Et j'ai effectué encore 10 ans, ce qui fait 25 ans. 25 ans, un quart de siècle. Voilà.
C'était pourquoi la première incarcération, les 20 ans ?
Eh bien, bande organisée, avec les circonstances aggravantes, association de malfaiteurs, entreprise susceptible de déstabiliser l'État. Et nous opérions l'expropriation, la reprise directe de la marchandise et une redistribution de cette marchandise dans les quartiers nord de Marseille.
C'était quoi comme marchandise ?
Oh, de la bouffe, des fringues, des trucs très terre à terre. C'est-à-dire tout ce qui nous manquait. Et même au-delà, ne déconnons pas. On volait. On faisait du vol une pratique politique. On attaquait les trains, par exemple. On dévalisait les entrepôts. Les magasins. Magasins de luxe, j'entends. On allait dans les quartiers riches de Marseille. Ou d'ailleurs, parce qu'on s'est lissé dans tout le sud-est. Et puis, on expropriait la marchandise. De même que la banque, bon, c'était selon, non pas l'inspiration, mais selon le travail que nous avions décidé. On était les staccanovistes du vol, de l'expropriation. On volait tous les jours. Tous les jours, on partait en opération. On était une vingtaine d'individus, ce qu'on appelle une bande organisée, quoi, voilà. Et j'étais condamné à l'âge de 20 ans à 20 ans de réclusion criminelle.
Combien d'évasions, à peu près, combien de tentatives d'évasion ?
Oh, 7 ou 8. J'arrêtais pas. J'étais le staccanoviste de l'évasion, étant donné que j'en faisais, non pas un fixing, mais en l'occurrence, c'était même un collègue, tiens. Il m'a dit, quand même, tu as eu une véritable obsession de l'évasion. Je lui ai dit, toi, c'est une obsession de la connerie, c'est quelque chose de pas croyable. L'évasion, c'était pour moi un moyen de revendication. Il y a eu des fois, je me suis inscrit dans des plans d'évasion, sachant qu'ils allaient échouer. On va dire, mais t'es mazo, alors, mais pourquoi t'es quand même fait? Parce que c'était une démarche politique. C'était pour, parfois, faire la démonstration de la stupidité de l'appareil. J'avais besoin, non pas de me prouver, mais de me faire et de faire aussi la démonstration de ce que j'étais en vie.
Il y a eu combien de prisons aussi? Parce que après les Beaumets, il y a eu Fleury.
Ah, mais j'ai fait 14 de prison parce qu'ils ne voulaient pas me garder. Quand j'arrivais dans ma prison, le chef d'établissement se dépêchait de m'expédier ailleurs pour dire « Prends-toi, toi, lui, là, tu vois ». Voilà. C'est pourquoi j'ai fait 9 ans de quartier de haute sécurité, de QHS, d'ailleurs. Parce que j'étais un détenu dangereux. Selon l'appellation de la pénitentiaire et des forces de répression, dangereux et représentant une dangerosité potentielle ou permanente. Et moi, le potentiel était évacué, il restait donc le permanent. Effectivement, sans me la jouer le grand méchant loup, que je ne suis pas d'ailleurs, mais je représentais pour l'appareil une dangerosité permanente, c'est vrai. C'est vrai.
Si on tend l'oreille, on les entend, ceux des Beaumettes, ceux qui sont aux fenêtres et qui hurlent, qui crient. Et c'est toujours terrible, ce son des détenus qui crient à l'attention de ceux qui sont à l'extérieur. On les a entendus en Avignon, si vous vous souvenez. On les a entendus à Saint-Pétersbourg, on les a entendus un peu partout. Et ben là-haut, on les entend aussi au Beaumettes. Et ben voilà, c'est vite dit comme ça, 25 ans de prison. Mais évidemment, c'est pas rien, mais ce qui est particulier dans le cas de Charlie Bauer, c'est cet entêtement à lutter, à
se sortir de là, s'en sortir de là. Pour lui, la belle, c'est vraiment une, c'est pas seulement sortir de la prison, c'est sortir de toutes les prisons. La fameuse formule vivre sans entrave, hein, la formule de, la fameuse formule de 68. Lui, c'était vraiment, c'est ce qu'il a fait. Mais c'est les entraves aussi bien, évidemment, d'abord physique, la prison, mais c'est aussi toutes les entraves, toutes celles qu'on a soi-même, dans sa vie, dans sa tête, et qu'on se met aussi en permanence dans sa tête. Tel est Charlie Bauer, ainsi parle Charlie.
J'ai connu des situations délirantes, l'évasion, la tentative d'évasion de Clairvaux, par exemple, dont je pourrais vous parler. À savoir, nous étions évadés par les égouts, nous étions pratiquement à l'extérieur. Arrivé au bout de l'égout, il y avait un mur avec des trous, hein, un mur de béton d'un mètre d'épaisseur, avec des trous qu'on appelait le nid d'abeille. Par où s'écoulait l'eau et le reste, puisque c'était des égouts, hein, bon. Et nous, notre plan, c'était de creuser, ben, arriver au bout du tunnel, face à ce mur, le blocos en l'occurrence, donc, creuser le tunnel, et puis sortir, nous étions dehors. Voilà, seulement on a été dénoncé par un détenu, justement. On a été dénoncé, et lors d'une tentative d'évasion à Clairvaux, ils noyaient les égouts, et ils ont noyé les égouts. Alors comment se fait-il que je vous parle aujourd'hui devant ce micro? C'est que finalement, il y en a un des matons sur les 80 qui était là à nous attendre, qui est parti en courant fermer les vannes, parce que nous avions de l'eau jusqu'à ras du menton et même un peu plus haut. Et aussi parce que finalement, bien que ne sachant pas l'épaisseur de terre qu'il y avait au-dessus du tunnel, on allait percer le trou et donc... Voilà, le ciel étoilé et les étoiles des uniformes. Et là, ils étaient 80 matons avec des manches de pioche, des morceaux de câbles électriques, des câbles électriques de haute tension, des fusils. Ils se sont mis sur deux haies comme ça. Ça faisait environ une vingtaine de mètres, une trentaine de mètres. Et ils nous ont passé au milieu de ces deux haies, enchaînés, les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds, enchaînés, passés à l'horizontale, parce que bon, Domaton nous avait dit, bon, ben vous savez ce qui vous attend, là, c'est comme ça. Donc, à poil, les chaînes, ils nous mettent les chaînes. Certains matons me tenaient les pieds, les chaînes des pieds plutôt, les autres les chaînes des mains, et ils me tenaient à l'horizontale, alors que, et ils me passaient au milieu de cette haie de matraques, de gourdins, de crosses de fusil. Au bout de cette haie, là, eh bien, j'ai eu quatre côtes cassées, le muscle pectoral arraché, lésion rénale, je pissais du sang, et 90 jours de cachot, bien sûr. Donc ça a été la plus douloureuse. Ça n'a pas été un matraquage, ça a été un massacre. Un massacre. D'autant que ça s'est passé devant 600 détenus. Tous les détenus étaient aux fenêtres et hurlaient leur rage et leur haine. Qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit ces événements de 1971 qui ont vu deux détenus, Buffet et Bontemps, prendre en otage un gardien et une infirmière et les égorger alors que les forces de police donnaient l'assaut. Parce qu'eux exigeaient, ils avaient pris en otage ce gardien et cette infirmière, et exigeaient une voiture pour... leur fuite, etc. Et la réponse a été l'assaut. Et eux auraient pu lever les bras, mais il y avait une telle haine à Clairvaux qui était palpable.
À Clairvaux, Claude Buffet et Roger Bontemps ont mis leur menace à exécution. Ils ont assassiné d'une manière horrible les deux otages qu'ils détenaient. Que s'est-il passé cette nuit? Michel Polaco était devant la prison de Clairvaux.
La nuit a été très longue. À 4h moins 3 minutes, ça a été l'explosion, violente déflagration, accompagné d'un éclair illuminant le ciel de la prison. Ensuite, le directeur des prisons, Monsieur Le Corneau, explique ce qui s'est passé et pourquoi il a donné l'ordre d'attaquer.
Il n'est pas possible d'accepter les conditions de mutins qui se saisissent d'otages pour recouvrer la liberté.
Monsieur le directeur, vous avez pensé qu'il y avait moins de risques à laisser les prisonniers dans leurs cellules avec leurs otages que de leur donner des armes et une voiture?
Ah, sûrement, parce que pour me souvenir des conditions dans lesquelles s'est terminée l'action d'Aix-en-Provence, c'était extrêmement grave. On ne peut pas leur donner des armes.
C'était un comportement haineux, un comportement meurtrier, produit, induit aussi par notre tentative d'évasion qui a été réprimée de la façon la plus sordide qui soit. Ça là, ça a été la plus douloureuse. Écoute-moi mon ami, aimes-tu la liberté? Voudrais-tu t'enfuir d'ici? Aimerais-tu t'évader? Veux-tu revivre à la vie? Marcher sans chaîne à tes pieds? Oh, réponds-moi mon ami, aimerais-tu t'évader?
La plus belle évasion, c'est laquelle?
C'est tellement fort. Ça a été ces 25 ans de lutte, ma plus belle évasion. Ces 25 ans de lutte, ces 25 ans de vie. Certains m'ont dit, à vouloir me plaindre, je ne me plaignais pas, parce qu'il y en a quelqu'un qui doit plaindre l'autre, bon, je ne fais pas le dessin, hein. Donc ne me plaignez pas. J'ai fait 25 ans de prison, je le revendique. En ai-je une fierté? Pas du tout. Pas du tout. Moi, ça s'inscrit dans un process de lutte, de révolution. De révolution. Et je crois que la plus belle des belles, c'est celle-là. Ils ne m'ont pas écrasé. Ils ne m'ont pas tué. Ils ne m'ont pas rendu ce qu'ils auraient souhaité que je devienne. J'ai été libre pendant 25 ans. J'ai surtout mis en branle des tentatives d'évasion, qui chaque fois étaient une évasion de ma condition de détenu, de ma condition de tolard, de ma condition de prisonnier. Je n'étais ni un tolard, ni un prisonnier, ni un détenu. J'étais un homme libre à chaque tentative. Donc chaque tentative a réussi.
Je sais comment scier tous ces barreaux qui sont là en guise de rideau. Je sais comment faire sauter les verrous entre la liberté et nous. Je sais comment faire tomber en poussière ce mur énorme d'énormes pierres. Je sais comment sortir de ce cachot fermé comme l'est un tombeau. Je sais comment revoir des fleurs sous un ciel bleu. Je sais comment avoir le cœur libre et heureux. Tu ne dis rien, mon ami, mais tu as au fond des yeux.
Il a dû la fredonner, le père Boer, en prison. Il a eu le temps. Il a eu le temps de la fredonner. Il a eu le temps de la prendre, cette chanson. Ce qui est extraordinaire dans son cas, c'est un insoumis, un cas d'insoumission totale, mais c'est la responsabilité. C'est-à-dire que tout au long de son parcours, Charlie Boer a assumé, il a été responsable de tout, et aujourd'hui, eh bien, il ne se renie pas. On est à Marseille, et au bistrot, près de la plage. Et qu'est-ce qu'on fait à Marseille, au bistrot, près de la plage? On regarde la mer.
On tape une petite tartine. C'est la tartine, olive et oignon.
On est dans un café, en fait, qui donne sur la plage à Marseille.
Oui, une brasserie. Voilà, ça se répand sur la plage. Et à proximité, à quelques mètres, il y a la mer. Et c'est beau. Quelle chance. J'aime la mer et justement ces horizons, là, lointains, très lointains. Et lorsque le regard se percute sur dans 9 mètres carrés et donc dans 4 mètres de distance, il faut avoir une imagination assez forte pour voir quand même l'horizon de ses idées qui dépasse les murs. C'est pourquoi se vouloir revendiquant, se vouloir désirant, bousculer les horizons, même lorsqu'ils sont bloqués par le béton, on détruit ces bétons.
Bousculer les horizons. Évidemment, c'est des formules qui ont l'air un peu incongrues. Aujourd'hui, si on s'en tient et si on se limite à la rumeur médiatique dominante, mais on sait que cette rumeur de médiatique dominante ne reflète pas ce qui se passe dans un pays comme le nôtre et dans les têtes et dans les cœurs des habitants de ce pays qui est le nôtre. Aussi, il se peut que Charlie Bauer, sa vie, son parcours, ses mots ne tombent peut-être pas tout à fait dans l'oreille de sourds, des sourds que vous êtes supposés être. À son histoire, bien sûr, il y a des raisons et des sources. Il y a un père, et il y a, comme pour beaucoup d'hommes de sa génération, on avait vu ça aussi avec ceux de Lotta Continua, par exemple, en Italie, il y a un père résistant et un père engagé. Et c'est évidemment là que l'histoire commence.
Il y a eu, par le fait de l'engagement du père, il y a eu une instruction par le père de cet engagement. Le père qui, par exemple, dans les années troubles de 39-45, s'est engagé dans la résistance. S'est engagé dans la résistance alors qu'il avait 4 enfants en bas âge. Il y avait eu à Marseille les grandes rafles. Et de ce fait, nous étions dans la campagne varoise, dans une cabane de jardin. Une petite pièce où il y avait pas d'électricité, pas d'eau bien sûr. Et je signale ça comme un fait, non pas d'histoire, un fait événementiel pour signaler la précarité dans laquelle nous vivions. On n'avait rien à bouffer, voilà. Ma mère faisait des frites, une fois elle a fait des frites avec de l'huile de voiture. On a failli crever, quoi, bien évidemment. L'essentiel de notre pitance, c'était le père qui passait les lignes ennemies et réquisitionner de droite comme de gauche dans la campagne de la bouffe qu'il nous portait, quoi. Donc engagement du père, un engagement forcené, très radical, rigoriste, à faire que à la libération dans le village à proximité de l'endroit où nous habitions, tant qu'il était responsable du groupe constitué en maquis, nous avait arrêté dans le village des collabos désignés. Donc les collabos étaient arrêtés, mon père, au balcon de la mairie, les montrait à la foule rassemblée sur la place de la mairie et demandait à l'avis du peuple, pétri de communisme, le paternel. Et le type, bien évidemment, je dirais à chaque fois, était exécuté derrière la mairie. Voilà. Donc la radicalité du paternel, c'était aussi ça. Les modes terroristes, disaient les adversaires, en l'occurrence les adversaires qui étaient nazis. Et puis, l'histoire a fait que ces terroristes sont devenus des résistants. Donc mon père fut un résistant, et je crois qu'il convient de signaler avec force un résistant communiste. La force m'oblige à signaler quand même un communiste stalinien. Voilà, pour être honnête avec l'histoire. Aujourd'hui, j'en parle avec la critique avant la voix et quelques, non pas quelques émotions, mais quelques ténacités à dénoncer ça. La domination absolue, le stalinisme, enfin, quelques processus fascisants.
En 1962, vous êtes arrêté.
Il faut remonter, bien évidemment, parce que l'arrestation, c'est non pas la concluante de nos actions, mais ça a été un des incidents. Pour que cet incident soit produit, il a fallu qu'il y ait des actions, pardon. Et ces actions, c'était la lutte armée. Donc j'étais soldat, d'une cause non pas aléatoire ou perdue d'avance, comme dit la littérature, ces causes perdues, etc. Donc pas du tout, pas du tout. Nous étions instruits, pétris, non pas de certitude, au grand jamais, mais de convictions fortes, profondes, qui nous faisait fonctionner dans un vouloir à participer à l'évolution des masses, comme on disait à l'époque. Et cette participation, c'était pour nous au Parti communiste que nous la trouvions. De toute façon, il n'y avait guère d'autres alternatives. Hein. Dans les quartiers nord de Marseille, il n'y a pas de patronage, par exemple. Ou du moins, je n'en ai jamais entendu causer. Il y avait une église, mais je ne sais même pas s'il y avait un patronage. Tiens. Nous, le patronage, c'était les jeunesses communistes. Donc, avec une formation très, très, je dirais presque militarisée. Non pas avec les armes, hein, mais militarisée avec l'arme de la conviction. Et rupture de banc après le vote par Guy Mollet et le parti des crédits de guerre pour l'Algérie. L'Algérie française. Crédits de guerre pour la France coloniale. Et donc nous sommes en rupture de banc, pas tout de suite, parce que nos convictions n'étaient pas suffisantes pour instruire une réflexion radicale de critique. Il a fallu 2 ans pour qu'arrive à maturité cette rupture, hein, cette critique de l'appareil, communiste en l'occurrence, qui participait avec les forces de droite à la guerre coloniale. Rupture de banc et donc marginalisation. Et dès lors, eh ben, criminalisation. Ce qui est différent et qui mène des actions révolutionnaires. Eh bien, ce sont des criminels. Bien sûr. Celui qui a raison, c'est l'appareil.
Voilà, voilà un parcours, évidemment, il faut relire ou lire le bouquin de Charlie Bauer, Fracture d'une vie, où il raconte toute cette vie, évidemment, incroyablement dense. Aujourd'hui, on est en 2005, on l'a dit, et il le dit, il ne se renie pas, il assume tout, mais enfin, si c'était à refaire.
La lutte armée était, je dirais, non pas inévitable, mais était non pas de mode, hein, ça c'est les cons de service qui la définissent ces termes, hein, non. Mais disons que c'était une pratique nécessaire. Ça a été une pratique nécessaire. Foin de quelques guévarismes, c'est pas de ça dont il s'agit. Hein. Mais, je dirais, si le contexte se présentait de la même façon, un rapport aussi ferme, aussi dur, aussi radical, dans l'affrontement avec les forces... du pouvoir. Je crois que je ferais le même choix de me battre.
Et si le contexte était celui-ci, celui d'aujourd'hui ?
Eh bien, je me battrais avec des idées, avec les mêmes armes, mais conjuguées d'analyse, de réflexion et d'action. Hein, et d'action, de pratique de ces idées. Ce que je fais aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous le faites en tant que sociologue, vous rencontrez des étudiants. Mais si Charlie Bauer avait 20 ans aujourd'hui, il ferait quoi ?
Alors là, c'est un si qui me cisaille totalement parce que je ne sais pas. Je n'ai pas 20 ans, mais je suis le marathonien qui court. Il y a toujours chez moi une remise en cause profonde, hein, une critique.
Comme par exemple, quand vous avez joué au théâtre sur les goulags, la critique du stalinisme.
Par exemple, j'utilise donc ce moyen, par exemple, à savoir, quel tremplin, quel mode d'expression. Aujourd'hui, la révolution, on l'associe bien volontiers à la crème qui promet la juvénilité à perpète. Pour moi, la révolution, c'est autre chose.
Et aujourd'hui, la révolution, c'est laquelle ? On l'a fait comment ? Avec quelles armes ?
En participant sur le terrain, c'est pourquoi je parle, me concernant, de sociologie de proximité. Aujourd'hui, il serait totalement inefficace de me balader avec le Kalachnikov en bandoulière. Non. Non. Alors, les mots, il faut leur donner leur vraie valeur. Le véhicule de la pensée, de cette pensée force, qui est une pensée révolutionnaire. C'est ce qu'il faut et c'est ce qui fait évoluer le monde. J'y crois fondamentalement. Et ces armes sont aussi efficaces que quelques rafales de Kalachnikov. Il y a 11 millions de précaires en France. Il y a 2,5 millions de gens qui vivent avec 50 balles par jour. Moins de 10 euros. Je considère toutes ces données et je dis, il faut se battre. Le couteau entre les dents, les gants de boxe, lutteur de foire, non pas du tout. De même que le gargarisme intellocrate qui consiste à donner des conseils ou à réunir le plus de monde autour de soi et prôner le grand œcuménisme des forces vives de... Non, pas seulement ça, non. Non. Se donner les moyens à faire que, par la réappropriation de l'oralité, les gens se mettent à penser, non pas sur leurs propres conditions. Et donc, un enfermement individualiste à la con. Nous ne serons pas forts parce que nous sommes les plus nombreux. Nous serons forts parce que chacun est un nombre en soi. chacun est un groupe en soi.
Il faut quand même parler. C'est terrible de devoir parler sur Miles Davis, sur une musique aussi superbe. Merci à Charlie Bauer. Je rappelle encore une fois le titre de son livre, Fracture d'une vie. J'ai oublié de signaler un bouquin de Benjamin Stora dont on a parlé dans l'émission d'hier. Benjamin Stora, le livre Mémoire de l'histoire, réflexion sur le livre et la guerre d'Algérie. En effet, au cours de ces événements, il y a beaucoup de livres qui sont parus depuis, mais beaucoup de livres pendant. Beaucoup de combattants d'Algérie ont écrit. Et c'est une particularité de cette époque historique. Les repères de là-bas, si j'y suis. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à www.radiofrance.fr. Je rappelle le principe de ces repères. On a lancé ça au début septembre, à la rentrée. C'est une idée très simple. Dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, vous avez envie de rencontrer d'autres auditeurs de là-bas, si j'y suis, et de France Inter. Il y en a dans le coin qui écoutent. On aimerait bien se rencontrer. Alors, vous trouvez un café le plus ouvert possible, un bistrot le plus ouvert possible. Pas un petit club fermé, et puis vous voyez avec le patron, la patronne, s'ils sont sympas, on se réunirait tel jour, soit toutes les semaines, tous les deux semaines, à vous de décider. Voilà, et ça marche et ça prend. On souhaite que ce soit ouvert et qu'il y ait le même brassage qu'on a à l'antenne en ce moment. Vous êtes nombreux à nous écouter, mais de milieux, d'origine, avec des regards très différents. Et c'est ça qu'on aimerait voir et entendre vivre dans ces repères de là-bas. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. Réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet. C'était un reportage, je l'ai dit, de Pascal Pascariello. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Christophe Humbert qui s'en occupe. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. C'est le moment de la réclame.